Frères et sœurs, Dieu nous accueille tels que nous sommes, comme un père qui aime ses enfants, comme un père dont l'amour surpasse même celui des parents les plus aimants. Sans lassitude, avec fidélité, il nous rejoint jusque dans nos errances. Il ne nous abandonne pas à nos pensées encombrées, mais dans sa paix abondante, le poids et les complexités de notre vie perdent tout pouvoir. Sa grâce nous offre comme une éclaircie et elle nous rend disponible pour recevoir une parole vivifiante. Présentons-nous ensemble devant notre Seigneur avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Je vous invite à rester debout pour louer le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que cette journée contient de promesses, pour tout ce qu'elle contient de rencontres. Merci pour les paroles échangées, en particulier celles qui n'auront jamais pu être dites. Merci pour les moments de sincérité, en particulier pour ces moments où nous nous considérons d'égal à égal. Merci pour celui qui se remettra debout et qui retrouvera un peu de dignité à ses propres yeux, grâce à des paroles que tu auras prononcées sur lui. Oui, merci pour celui qui se laissera habiter par ton souffle et dont la vie sera changée. Merci pour celui qui sera témoin de plus grand que lui-même, parce qu'il t'aura laissé la place qui te revient. Merci aussi pour celui qui rayonnera de cette vie profonde, non pour que tu l'aimes, mais parce que toi tu l'as aimé le premier. Amen. Je vous invite, en l'honneur du baptême qui aura lieu juste après, je vous invite à chanter toutes les strophes du chant du psaume 8. je vous invite à vous asseoir. Et nous nous mettons à l'écoute des attentes, de l'ambition de Dieu à notre sujet. Nous les trouvons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Amen. Devant une telle ambition, nous ne pouvons que remarquer et faire état de nos insuffisances. Nous prions Dieu. Seigneur, nous sommes aveugles devant toi et nous le confessons. Quand je me crois quelqu'un, quand mes vertus me montent à la tête, c'est alors que je ne vois plus. Car je ne vois que ma propre loi. Seigneur, aie pitié quand la colère, la rancune ou mon jugement sur les autres me submerge. Car c'est alors que je ne vois plus. C'est alors que je ne vois plus que moi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Quand je perds l'espérance, quand je perds la certitude de ta victoire, quand je perds la confiance dans l'esprit d'amour que tu m'envoies pourtant jour après jour, c'est alors que je ne vois plus, car je ne vois plus que mes forces. Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Écoutons la grâce que Dieu nous donne abondamment et sans condition. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas diminuée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Voici comment Dieu a manifesté cet amour. Il a envoyé son Fils, son unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie, et la vie en abondance. Par ces paroles, frères et sœurs, Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Nous pouvons lui chanter notre reconnaissance. Relevés par la puissance de ce pardon, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Créateur qui nous a confié ce monde, pour que nous y dessinions les traces de son royaume. Je crois qu'il nous veut pour partenaire d'une alliance, cette alliance qu'il renouvelle au cours de l'histoire. Je crois qu'il est entré dans cette histoire. Par la foi des patriarches, par la parole des prophètes, par son incarnation en un homme Jésus, qui a vécu comme nous, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Je crois qu'il est entré dans ma vie, comme dans la vie de tous les hommes, pour nous accompagner et nous conduire dans la liberté. Je crois qu'il est la source d'amour, et qu'il souhaite le salut à toute l'humanité. Je crois que tous les moyens qu'il se donne concourent à la germination d'un monde nouveau, dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. Amen.
Asseoir. Voilà, je vous laisse comme ça. Voilà, c'est une joie aujourd'hui. Cette joie, elle est dans nos cantiques. Elle est tapie au fond de notre cœur. Elle ne demande qu'à se développer. Et elle peut se développer avec l'accueil de Victoire Heilmann, dont les parents ont demandé le baptême. Alors vous êtes les bienvenus, frères et sœurs. L'Église vous accueille aujourd'hui, vous et Victoire. Le baptême que vous l'avez demandé pour qu'elle puisse recevoir le signe de la grâce de Dieu et qu'elle soit accueillie aussi dans l'Église du Christ. Alors, comme c'est un enfant et qu'elle n'est pas consciente de ce qui lui arrive, eh bien, elle nous témoigne que, avant même que nous cherchions Dieu, Dieu est près de nous. Avant même que nous puissions lui répondre et comprendre ce qu'il est et ce qu'il nous demande, eh bien, il nous appelle par notre propre nom. Voilà donc le sens du baptême. Et nous rendons grâce pour le baptême que nous avons reçu et que nous allons donner. C'est notre joie, Père. C'est notre salut même de t'adorer C'est toi qui viens au-devant de nous pour nous offrir ta présence et tes bienfaits. Nous te remercions pour Jésus-Christ, ton Fils, et pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, celle de ta grâce, de ton amour, mais aussi de la lumière par laquelle nous sommes aptes à voir la lumière. Et tout cela en grand Seigneur, tu l'offres sans condition, tu le donnes gratuitement à tout être. Alors aujourd'hui, nous te présentons Victoire pour qu'elle soit marquée du signe de cette grâce, de cet amour et de cette lumière. Et c'est pour nous l'occasion de faire mémoire de notre propre baptême et l'occasion de te célébrer à nouveau. Simplement, nous obéissons à ce que Jésus nous avait demandé dans les Écritures. Lorsqu'il avait demandé à ses disciples, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors par le baptême, Dieu nous manifeste le salut que nous avons en Jésus-Christ. Ce baptême signifie que Dieu a aimé Victoire en premier, qu'il l'appelle mon enfant, et que ce nom est donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour, Victoire pourra répondre à cette parole et qu'elle découvrira la présence de Jésus à ses côtés. Victoire, pour t'accompagner sur ce chemin, l'Église s'engage à t'apprendre, à témoigner de cette vie nouvelle, à te témoigner de la chaleur, de la tendresse, de manière à ce que toi aussi, à ton tour, tu puisses accompagner d'autres dans ce témoignage et que toi, tu sois aussi embarqué dans cette aventure qui est l'aventure du Christ, qui cherche à construire un monde de justice et de paix. Ainsi donc, parents, marraines et parrains, alors je ne les ai pas repérés, Victoire est chez elle dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne pourra jamais l'y retenir. Et si jamais elle venait à s'en séparer, eh bien sa place resterait toujours marquée et toujours prête pour la recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour elle un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous la soutiendrez, vous l'aimerez afin qu'elle parvienne elle aussi à la foi et qu'elle réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême. Et puis, comme nous l'avons dit dans la préparation du baptême, vous trouverez appui auprès de l'Église et de ses témoins, quels qu'ils soient, pas besoin forcément d'un pasteur, pour parler du Christ, pour parler de la vie de Jésus, parce que les enfants en sont friands. Alors, en demandant le baptême de cet enfant, eh bien, vous avez demandé qu'elle reçoive le signe de la grâce de Dieu. Alors, je vous invite à vous approcher. Les marraines et parrains peuvent aussi venir, parce que c'est une manière de rendre visible le soutien que vous lui apporterez. Voilà. Victoire, le Seigneur tourne son visage vers toi. Il fait briller sa lumière et il te donne sa joie, toi qui es une fille qui est remplie de joie et qui fait la joie de ses parents. Il te donne cette joie qui est une joie très spéciale, une joie qui jamais ne s'en va. Je vais te le dire autrement, avec des mots que tu pourras comprendre quand tu auras 5-6 ans. Les montagnes peuvent bouger. Les collines peuvent même changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dis cela, et je te le dis dans ma tendresse. Nous prions. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Victoire, qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille. Donne à ses parents et à tous ceux qui auront à prendre soin d'elle de lui révéler ton amour et de la préparer à te suivre un jour dans la reconnaissance et la joie. Nous aussi, nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. On va montrer Victoire parce que c'est un superbe bébé. Regardez, la fille de Dieu, celle que Dieu appelle par son nom, Victoire, qui était très sage. Voilà, vous pouvez regagner votre place. Alors, nous allons chanter le chant qui a tout son sens pour un baptême et un baptême d'enfant. Je vous invite à chanter le chant 204. Seigneur, dirige et sanctifie. Je vous invite à vous asseoir.
Dans une première lecture, nous nous mettrons à l'écoute de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Moi-même, frères et sœurs, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit-Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises qui seront un jour détruites. Nous, nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse, car si elle l'avait connue, elle n'aurait pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. Et c'est à nous que Dieu a fait connaître cette sagesse par l'Esprit-Saint. En effet, l'Esprit-Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Mais personne, sauf l'Esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne, mais nous en parlons avec les mots que l'esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet esprit. Je vous invite à chanter le cantique 240, les trois strophes. Vers toi s'élève mon âme.
Elle soupire après toi.
Je vous invite à vous asseoir. Et dans l'esprit et dans le fil du texte que nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, nous demandons au Seigneur qu'il nous envoie son esprit pour pallier nos faiblesses. Père, envoie sur nous ton esprit, celui que tu as envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles la vue. Par lui, viens toi-même ouvrir nos yeux et alors nous verrons ton amour. Par lui, viens toi-même briser nos chaînes et nous irons libérés de nos préjugés pour partager ta bonne nouvelle. Voici le texte que nous méditons ce matin. Il nous vient du témoin qu'est Jean, l'évangéliste Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas là avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Alors de ce texte bien connu, il ne reste souvent à l'oreille que le nom de Thomas. Spontanément, c'est un disciple de Jésus que peuvent citer les personnes qui ont encore des restes de culture biblique, tout en étant très éloignées de cet univers. Il est donc facilement associé à la difficulté d'avaler ce phénomène qui s'entête contre toute rationalité, c'est-à-dire la résurrection. Pour certains, il est devenu le porte-voix du scepticisme, mais d'un scepticisme de bonne santé mentale. C'est-à-dire qu'on doit avoir à l'égard de toute déclaration de foi quand même des réserves et puis des doutes. Alors Thomas est victime de son succès, je dirais, parce qu'il occulte en fait le texte et je dirais surtout qu'on ne lui rend pas justice, on ne le voit plus. On ne voit que le label qu'il représente, le label d'une foi méfiante, ou encore la caution de ceux qui trient les récits des évangiles pour les expurger de toutes ces contes de bonnes femmes, au nom de la rationalité et de l'intelligence. Alors n'allez pas croire que ça date du XVIIIe siècle, ou des riches heures du scientisme des positivistes, ce succès-là de Thomas. Thomas a été la figure de courant gnostique pour qui seule la connaissance était la voie d'accès au mystère divin. Il y a même eu un évangile selon Thomas, d'ailleurs fort intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que la figure de Thomas est devenue celle de la foi qui a ses faiblesses, mais qui s'y tient et qui même s'accroche à ses faiblesses, qui ne veut pas bouger de là. Alors c'est un dommage que l'on fait au texte. Parce que ce texte montrait certes l'importance des résistances de Thomas, mais vous voyez à la fin du texte qu'il en fait la figure d'un homme saisi par une foi gaillarde. Alors nous, mon Seigneur et mon Dieu, c'est devenu banal. Non, mais à l'époque, c'est une provocation. Sa confession n'est pas bavarde, c'est vrai, elle n'a rien de jargonnant, c'est très simple. Mais elle a une force, un d'upercute, c'est un coup qu'on peut recevoir. Parce que le quatrième évangile a été rédigé à la fin du 1er siècle, à l'époque où régnait l'empereur Dioclétien, qui exigeait d'être salué comme notre Seigneur et notre Dieu. Donc Thomas, simplement, détourne ce salut obligé et il le donne à son Seigneur, à Jésus-Christ. Alors ne nous arrêtons pas trop aux images commodes de Thomas, celles qui justifient vite fait une foi paresseuse, pour que notre vie ne traîne pas d'évidence en évidence, et puis moi je dirais surtout d'évidence en résignation, parce que finalement, la résurrection, dans sa difficulté, a quelque chose qui palpite, quelque chose de puissant, dont il ne faut pas se priver. Alors je vous propose de faire le chemin de Thomas avec le récit de Jean, et pour voir à quel point Thomas n'est pas ce sceptique endurci que l'on croit, mais qu'il a fait un chemin au cours de ce récit. Alors je vais suivre le texte, j'espère ne pas faire de paraphrase, mais enfin bon, ça arrive à tout le monde, ce texte est tellement fort. Alors c'est donc au soir d'une riche journée, en rebondissement, le corps du crucifié a disparu au matin, et près du tombeau vide, eh bien, Jésus ressuscité se manifeste à une femme qui le voit, effectivement, mais elle le voit comme son Seigneur, après l'avoir pris pour un jardinier. Alors, les disciples, eux, sont restés claquemurés dans la crainte d'une hostilité des Juifs, hostilité supposée d'ailleurs, et sans doute que la rumeur de la résurrection de Jésus leur est parvenue, mais elle n'a pas soulevé de joie ni de foi chez eux. Ils se protègent, et ils ont peur de sortir. Alors on peut aisément les comprendre. Quelle débâcle quand même, quelle triste fin. Celui qui les avait sortis de leur vie ordinaire, de pêcheurs, de charpentiers, eh bien, il les a déroutés par sa mort. Et la défaite de Jésus, c'est aussi la leur. Alors, il faut aussi voir dans cette peur exagérée des autorités juives une allusion à l'exclusion de la communauté des Johanniques, c'est-à-dire de ceux qui étaient autour du rédacteur de l'Évangile de Jean. Ils ont été exclus de la synagogue à la fin du 1er siècle, au moment de la rédaction de ce texte. Mais aussi, on peut comprendre ce besoin de se protéger de l'extérieur, parce que ces disciples ont perdu tous leurs repères, tout est brouillé. Leur maître n'est plus là pour les orienter. Et puis quand même, il ne faut pas oublier que c'était avant-hier la foule qui hurlait. Pilate qui abandonnait Jésus à son sort. Et puis le supplice, le tombeau, l'humiliation, c'était quand même avant-hier. On peut comprendre qu'ils aient besoin de se retrouver entre eux. Mais soudain, dit le texte, sans avertissement, Jésus est là. Il se tient là, et d'après le verbe grec, il se tient dans la posture d'un relevé, lui qu'ils avaient laissé gisant dans le tombeau. Là, il est debout, il se tient comme un ressuscité, puisque c'est le mot que l'on utilise pour dire ressuscité. Il se tient au milieu d'une situation qui est verrouillée par la peur, et il nous montre qu'au fond, rien ne lui est inaccessible. Il peut nous rejoindre dans tous nos enfermements, quels qu'ils soient. Et il se tient là, debout, ressuscité, souverainement. Il peut se tenir même au cœur de nous-mêmes lorsque l'on est crispé et replié par l'angoisse. Sa présence inexplicable, pourtant, n'a rien de magique. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle opère, elle fait ce qu'elle dit. Alors la paix, qu'il répète trois fois, ça pourrait être une formule convenue, le shalom que l'on dit quand on rencontre quelqu'un lorsque l'on est juif, quand on le rencontre et que c'est une formule de politesse. Non, là il s'agit vraiment d'une paix, on le voit tout de suite. Ce n'est pas une formule, c'est une réalité qui dénoue les tensions. C'est un don efficace qui restaure l'harmonie des relations interpersonnelles, mais aussi l'harmonie des relations entre Dieu et les hommes. Et c'est tout de suite une réalité, qui abolit le besoin maladif de sécurité, parce que cette paix, elle met les bénéficiaires en confiance. Alors ce n'est rien de magique, Jésus n'est pas un passe-muraille qui nous montre ses prodiges. Il arrive là, dans son humanité blessée, dans sa chair malmenée de crucifié. Car déjà, première chose, c'est difficile pour nous de croire en la résurrection, mais une chose à savoir, c'est que la résurrection n'efface pas les marques du rejet. La résurrection n'est pas là pour dominer l'histoire, pour l'enjoliver ou pour la nier par magie. La résurrection n'est pas non plus un remède contre l'angoisse de la perte, contre l'angoisse de la mort. Non, on peut croire à la résurrection et avoir peur de la mort. On peut même dire que la résurrection, elle part même de là, elle part de cette hantise de la mort et de la perte. Et c'est même ce qui fait la gloire du ressuscité. C'est pourquoi Jésus, tout de suite, il montre ses plaies. Et les disciples, c'est vrai, ils le reconnaissent, c'est bien lui qui a été crucifié, mais déjà les disciples ont avancé. Ils reconnaissent les promesses d'Ésaïe. Ces promesses sont là devant eux, accomplies. Je les rappelle, ces promesses, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, le châtiment, gage de paix pour nous. Ce châtiment était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Eh bien voilà, la joie qui sort du cœur des disciples, c'est celle-là, c'est celle de reconnaître ce qu'ils attendaient au fond d'eux, et dont ils n'avaient pas toujours conscience. C'est la joie des retrouvailles, certes, mais c'est une joie portée par une joie beaucoup plus durable qu'elle. Elle ne dépend pas des circonstances. C'est la joie qui vient de la présence de Dieu par son esprit. Alors vous voyez qu'il ne tarde pas, il souffle sur eux, le Saint-Esprit. Et en insufflant cet esprit, Jésus se montre comme le Père dans la Genèse. Il donne vie à une nouvelle création, à une humanité renouvelée, qui sont en premier les disciples. Alors désormais, il les investit d'un pouvoir. Alors le pouvoir, tout le monde est fasciné par le pouvoir, et plus le pouvoir est subtil, et plus il nous fascine. Et bien là, c'est un pouvoir très subtil qu'il aurait donné, mais peut-être embarrassant. Alors, ce pouvoir, en fait, on en prend conscience en passant par le grec, malheureusement. Mais Jean utilise une petite subtilité grammaticale en jouant avec les temps pour pouvoir faire comprendre l'amplitude de ce pardon qu'on a du mal à percevoir dans la langue française. Alors si j'ai fait une périphrase pour comprendre cette subtilité que l'on perçoit dans le texte grec, on pourrait traduire ainsi. Si pour une fois, vous relâchez les péchés des autres, ils leur sont relâchés. Mais si vous les retenez comme vous le faites d'ordinaire, les péchés leur seront et leur resteront retenus. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de nouveau, et c'est ça la résurrection. La résurrection, ce ne sont pas ces effets spéciaux, ce n'est pas un retour à un stade antécédent. La résurrection, c'est cette capacité de renouveler des relations, cette capacité de ressusciter des relations. J'ai rencontré une paroissienne qui était issue d'une famille libérale et qui, le mot résurrection pour elle déjà, ça lui donnait du prurite. Elle avait des démangeaisons, elle ne supportait pas ce nom. Et un jour, on a écrit dans le journal paroissial un texte qui était issu d'Évangile et Liberté où l'auteur avait tout simplement mis un trait d'union. Le ressusciter. Celui qui est suscité à nouveau par les disciples, celui qui devient nouveau, celui qui devient une rencontre première. Et là, elle m'a dit, ben moi je crois finalement à la résurrection si c'est comme ça. Donc il s'agit bien de cette résurrection-là qui n'est pas quelque chose de magique et qui force et qui violente la raison. C'est cette capacité à renouer et à redonner vie à des liens qui avaient été endommagés par des offenses et aussi par de la rancune. Voilà donc cette réalité qui est saisie par la foi, et vous comprenez bien qu'elle transforme les existences de chacun. Alors déjà, la première chose, c'est que les disciples se sentent acceptés, on pourrait dire même pardonnés, comme ils sont, dans leur peur, parce que quand même ils ont peur, dans leur lâcheté. Et à peine acceptés, à peine pardonnés, qu'ils sont déjà investis d'une responsabilité de pardon. Ensuite, ils sont embarqués dans une aventure, celle de la création d'un monde nouveau, de nouvelles relations, parce qu'eux-mêmes pardonnent à leur tour. C'est une manière de... Lorsque l'on retient les péchés des autres, lorsqu'on a du mal à pardonner, on maintient le passé, on maintient l'ordre ancien, on maintient aussi la causalité où s'enchaînent les offenses et les contre-offensives. Ne pas pardonner, c'est une manière de conserver en l'état un monde qui est marqué par le mal et le péché. C'est une façon de participer au régime général des relations humaines. Puisqu'on est jugé, alors on se mure dans l'auto-justification. Puisque les autres nous jugent et nous pardonnent rien, on est tout bien obligé de présenter une image trafiquée de soi pour être acceptable. On est bien obligé de se méfier d'autrui. Et on s'enferme dans son propre mensonge. Mensonge auquel on finit par croire. Alors que le pardon, lui, voit avec courage l'offense. Il voit le péché et il laisse l'autre aller son chemin, débarrassé du poids de sa faute. Le pardon peut changer de monde à nos yeux, en étant autre chose que notre capacité à blesser. Il peut changer celui qui nous a blessés et on le laisse aller sans le retenir par la peur du jugement et par la peur de Dieu. Voilà la mission qui nous est proposée par la résurrection. On vient d'être visité dans nos logiques de fermeture. On sort à peine de nos captivités que déjà on est envoyé vers les autres comme relais d'une puissance de pardon. À notre tour, nous sommes des libérateurs. En pardonnant depuis et avec ce pardon reçu, c'est comme si on ouvrait les tombeaux de la culpabilité et de la rancœur. Comme les disciples, on est associé à l'œuvre de réconciliation de chacun avec son Dieu. Alors vous voyez que la résurrection, ce n'est pas juste quelque chose, une visite du ressuscité qui viendrait pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous dorloter. Non, le ressuscité nous vient, nous apparaît à notre foi pour nous envoyer, pour dynamiser notre confiance en lui, en donnant une direction, celle du pardon. Mais ce n'est pas terminé. Il manque quelqu'un. Il y a un absent. Un seul absent, et Jésus se déplace pour le rejoindre, comme le fait le berger pour une seule brebis manquante. Pas un n'est oublié. Et même si c'est quelqu'un qui n'est pas un béni, oui, puisque Thomas, il a déjà manifesté des signes de doute et de réserve avant la crucifixion. Alors Thomas va bénéficier d'une séance de rattrapage. D'ailleurs, on peut se demander si les 10 séquestrés du dimanche soir, comme les appelle un théologien, n'ont pas besoin eux aussi d'un rappel. Le rappel à sortir de leur refuge, parce que vous remarquez qu'ils sont restés en chambre. Ils ont encore verrouillé leur chambre. Thomas, chacun le sait, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à croire sur parole. Du témoignage des disciples, il ne veut rien entendre. Et il met déjà les disciples en échec dans leur mission. On le sait, l'énoncé de la foi n'a jamais suffi à retourner personne. Ce ne sont pas des paroles qui ont des vertus magiques, ça se saurait. Et d'une certaine manière, l'attitude de Thomas est exemplaire pour nous. C'est un modèle de foi. Car c'est quelqu'un qui exige d'être concerné personnellement, qui attend une relation personnelle, car les formulations universelles, les résolutions générales ou les confessions impersonnelles ne le satisfont pas. Il veut être concerné dans tout son être. Il veut voir de ses mains, il veut toucher de ses yeux, il veut se rapprocher pour être en contact, en relation sensible. Alors que le voir et l'entendre met le réel à distance. Eh bien, là aussi Jésus l'accueille, c'est Jésus qui vient à lui. Thomas qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas entendre n'importe comment, eh bien Thomas est entendu dans son désir par Jésus, dans ce désir beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il veut être pris au sérieux dans son désir propre. Lui qui a été tenu à l'écart à la première visite du ressuscité, il veut être entendu comme un cas à part. Il a besoin de vérifier par lui-même, et soit dit en passant, la communauté des disciples, tout aussi repliée sur son entre-soi, est capable d'accepter quelqu'un qui ne croit pas comme elle. Vous voyez que les premiers chrétiens sont aussi ceux qui acceptent, ceux qui doutent et qui n'acceptent pas des vérités massives sur la parole d'autrui. Alors Jésus reprend les demandes de Thomas pour les satisfaire. Mais le récit ne nous dit pas si Thomas a bien vérifié, palpé, saisi avec ses sens la présence du supplicié revenu à la vie. Et le silence du texte nous porte à penser qu'il n'avait déjà plus besoin de ses preuves, que cette exigence était déjà débordée par quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus renversant. Deviens un homme de foi. C'est à ces paroles que Jésus réagit, non pas pour obéir mécaniquement, mais parce qu'il y est entendu comme une personne unique, traversée de doutes, certes, de faiblesses, mais aussi fait d'un désir de relation personnelle, du désir d'une révélation personnalisée. Plus que dans un face-à-face, dans un cœur à cœur où les mouvements invisibles de son être appelés à la vie sont vus par le ressuscité. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce qui fait la joie dans la vie de foi, je dirais dans la vie, dans la relation avec n'importe qui, c'est quand on se sent rejoint dans notre spécificité, quand on est remarqué, et parfois on peut avoir une vie intime avec quelqu'un et l'autre ne nous voit plus, ne nous remarque même plus, il termine nos phrases, il ne nous connaît plus dans notre nouveauté. Et bien là, Jésus le rejoint dans sa spécificité, il l'a compris dans son unicité, il a été remarqué par Dieu lui-même parce que sa vie lui importe à tel point que son regard sur lui le révèle à lui-même. C'est la même chose pour nous. C'est parce que parfois nous sentons à quel point Dieu est concerné par nous, à quel point le Christ nous regarde nous comme une personne unique, que nous sommes révélés à nous-mêmes. Et même si ça passe par l'étape douloureuse de la repentance. Alors voilà ce qui fait la force de la figure de Thomas. Thomas, ça veut dire jumeau, c'est lui notre jumeau. Nous avons cette façon de ne pas croire n'importe quoi et d'être de toute façon traversés par le doute. Mais nous avons aussi cette capacité, cette foi extrêmement forte et extrêmement exigeante d'être rejoint personnellement par le Christ, de bénéficier d'une révélation personnelle. Alors vous voyez, Thomas apparaît dans son visage subtil, dans toutes ses nuances et dans la dynamique d'un échange qui est beaucoup plus dense que ne sauraient le dire les paroles. Et déjà, il n'est plus cette figure, ce masque qu'on a fait du dur à croire, du douteur professionnel ou du saint patron des discuteurs et des philosophes avertis. Non, non, sa confession de foi, de peu de mots, elle craque d'intensité sous l'étroite carapace de ce qui est formulé ici et de ce qui était au départ une formule destinée à un empereur narcissique. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, toi tu m'as vu, tu m'as remarqué, tu m'as accepté, alors que moi je ne pouvais déjà plus rien accepter. Oui, heureux es-tu, Thomas, car tu n'as rien vu de ce que tu pensais voir, mais tu as cru. Heureux êtes-vous, vous qui n'avez rien vu et qui, déjà, sentez le croire, vous gagner et vous saisir. Amen. Nous nous levons pour chanter le cantique 149, « Mon Rédempteur est vivant ».
«
Je vous invite à vous asseoir pour écouter les annonces. Et d'ailleurs, pour ce chant, remarquez que Victoire a un nom programmatique. Voilà. Je fais une première annonce et après je laisserai la place au président du conseil. Bon, la première annonce, elle est très brève. Il y a les activités, ce sont des activités d'été. Donc il y a mercredi prochain, donc ce mercredi, une étude biblique, un partage biblique, une étude biblique, pardon. Donc 4 rue de l'Oratoire, de midi et demi à 1h30. Donc sur les visites qui sont rendues à Job.
Bonjour à tous. Je voudrais juste vous rappeler nos amis du CASP, le Comité d'Action Sociale Protestant. Nous adresse un message, une demande. Si vous avez des vêtements, des chaussures, surtout des chaussures, très curieusement, c'est pour venir en aide à nos frères qui sont réfugiés et qui arrivent en France et qui sont souvent dans le plus grand dénuement. Donc le CASP a besoin de vêtements en bon état et surtout de chaussures, pour les hommes en particulier, plus que pour les femmes. Donc si vous avez quelques ressources chez vous, prenez contact avec le secrétariat de l'oratoire qui vous donnera les coordonnées pour aller déposer ces chaussures, ou à la limite vous viendrez les déposer, on s'occupera de les faire passer au CASP, mais le plus simple serait que vous téléphoniez au secrétariat de l'oratoire qui est ouvert tous les jours et on vous donnera les coordonnées du CASP pour orienter et déposer vos dons en vêtements et surtout en chaussures. D'avance, merci de votre générosité et bon dimanche à tous.
C'est le moment de l'offrande. nous nous unissons dans la prière. Sois béni, Père, pour ta parole et pour l'assurance que tu nous y donnes de ta victoire sur toutes les puissances du mal. Nous te prions pour le monde, pour notre pays, pour l'Église et pour nous-mêmes. Que ton esprit d'humilité fasse de nous les serviteurs de tous, et en particulier des petits, des humbles, des délaissés et de ceux qui sont opprimés par toutes sortes de misères. Que ton esprit consolateur assiste tous ceux qui sont meurtris par la vie et par les événements actuels. Qu'il les garde et qu'il nous garde aussi de toute amertume. Qu'ils maintiennent vivante en nous et en eux la flamme de l'espérance. Que l'esprit de sainteté nous purifie de la haine. Que l'esprit d'amour nous garde du fanatisme. Qu'il nous aide à aller les uns vers les autres, à nous écouter, à chercher ensemble ce qui est juste et bon pour l'aujourd'hui que tu nous donnes de vivre. Que l'esprit de sagesse donne aux hommes d'État, aux divers responsables et à tous les citoyens une intelligence lucide en vue des choix qui nous attendent et que le monde attend de nous. Que l'esprit créateur suscite partout une nouvelle vie, qu'il rende fécond les ferments de renouveau qui sont apparus au milieu des événements actuels. Que ton esprit de vérité conduise l'Église dans toute la vérité et qu'il lui permette de garder et d'annoncer fidèlement ton évangile. Et qu'ainsi le règne de paix règne dans nos cœurs, dans nos foyers, dans notre peuple et partout dans le monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le même Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, à la suite duquel nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Levez-vous, recevons la bénédiction du Seigneur. La sollicitude, l'attention et la tendresse de Dieu notre Père est sur chacun de nous. C'est lui qui affermit l'ouvrage de nos mains. C'est lui qui intensifie notre quotidien. C'est lui qui nourrit notre faim. Allons dans sa lumière. Amen.